Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, dans les aventures qui va suivre, vous êtes déjà.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y parle rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
La révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues de patron,
bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de
c'est encore le même conseil social et la chanson c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs et puis à la fin du compte on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de poste. Tu dis tant quoi que les pas tant quoi tu dis jamais il faut que ce soit tout
en merde pour la ronde merde
avec un rêve du poil avec un rêve du poil.
Aujourd'hui, mercredi 19 octobre 2016, c'est la Sainte Hillary Clinton. Sainte Hillary Clinton est la sainte patronne des femmes éhontément exploitées par le machisme patriarcal le plus rétrograde. Il n'y a pas que dans le cinéma d'action que les Américains sont plus forts que nous. Ils sont aussi plus forts dans les récits de vie. Ces histoires bouleversantes de femmes qui réussissent, malgré tous les malheurs qui leur arrivent, à trouver le bonheur. Ces histoires tellement tristes au début, mais qui finissent quand même par nous redonner espoir. Des histoires de bonnes femmes qui font chialer, mais qui nous font du bien. C'est l'histoire d'une femme. L'histoire d'une femme qui vit dans un monde d'hommes. Une femme qui devra surmonter bien des épreuves. Une héroïne du quotidien qui apprend à triompher des obstacles contre vents et marées. C'est une femme d'aujourd'hui. Et comme à toutes les femmes exploitées, les tâches domestiques lui sont imposées. Faire le ménage, la cuisine, la lessive et le repassage, faire les courses, torcher les nourrissons, les nourrir et les emmener à l'école, Et avec tout ça, continuer d'aller travailler comme serveuse dans un snack où elle sert des hommes bruyants et grossiers qui en profitent pour lui pincer les fesses à chaque fois qu'elle passe, les bras chargés de plateaux. Dire qu'hier encore, c'était les esclaves qui étaient chargés du sale boulot. Mais depuis que Barack Obama a été affranchi, c'est aux femmes que reviennent toutes les corvées. Même au 21e siècle, la femme est encore le nègre de l'homme. Petit à petit, cette femme fera des rencontres. Le séduisant Bill, le lobby pro-israélien, les monarchies pétrolières, le complexe militaro-industriel, les think tanks qui lui permettront de s'épanouir pleinement et de sortir de sa condition de femme exploitée. On ne naît pas Saint Hillary Clinton, on le devient. Dès lors, elle soutiendra, encouragera et même sera l'initiative d'agressions états-uniennes envers certains pays comme la Serbie, l'Irak, la Libye ou la Syrie. Fini de chialer dans les chaumières et place à l'action! Et comme quoi, la guerre, c'est aussi une affaire de gonzesses. Et en novembre, aux élections, c'est avec un Oscar que sera canonisée Sainte Hillary Clinton. Aujourd'hui, mercredi 19 octobre, le soleil s'est levé. C'est un avion blanc dans le ciel. Elle a déjà brûlé ses ailes. Elle est née dans un ouragan. Il va se coucher, toujours cruel, et cependant, c'est une lady. Lady L. C'est une femme. Tout simplement. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche du Radio Campus et sur le campuslille.com.
Il m'avait offert un plan de carrière qui rendrait pas fiers les célibataires. Il m'a fait signer, juste en CDD, un peu paniqué de se lasser d'aider. Je produis assez pour le contenter, au moins un bébé, tous les deux étés. Je fais le ménage, lavage, repassage, et les sas se sachent, je suis à mon âge. J'ai sur le dos mes deux patrons, l'un au boulot, l'autre. L'un me fait trimer en équipe, l'autre je lui taille ses tulipes. Que bloque ma galère d'heures supplémentaires, je frotte à l'itère les tâches ménagères. Je vide les water, il vide ses bières, sans doute pour lui plaire. Faudrait-il me taire? Un jour son Altesse prend à notre adresse une contre-maîtresse qui me tient en laisse. Il ordonne j'acquiesce, me mêle de mes fesses et lui lâche mes caisses quand il lâche une caisse. J'ai sur le dos mes deux patrons, l'un au boulot, l'autre au salon. L'un me fait trimer en équipe, l'autre je lui taille ses tulipes. Ça ne va pas durer, je me suis syndiqué, j'ai revendiqué des ponts, j'ai payé. J'augmente mes tarifs, je monte une manif, je lui bois le pif, je brûle son calcif. Si je marche, il crève, je dégaine mon glaive. Sa fin sera brève, sa lutte sans trêve. Voilà, nuit s'achève et le jour se lève. Je trouve ma relève dans ma caisse de rêve. J'ai affronté mes deux patrons, l'un au boulot, l'autre au salon. L'un s'est retrouvé acculé, l'autre va se faire bousculer. boulot, l'autre au salon. L'un s'est retrouvé acculé, l'autre va se faire bousculer.
Ça va, monsieur Boursier?
Raoul est debout.
Ça va, passez à pas du Premier ministre. Vous envoyez ici. Franchement, c'est à lui qui devait être là, quoi, vraiment. Faut se plaindre. Chers collègues, normalement, ce deuxième mardi du mois, nous devions discuter du State of the Union, comme on dit aujourd'hui. C'est plutôt le State of the Disunion, visiblement. Et je crois que vous avez relativement peu d'excuses sur la non-présentation ici aujourd'hui d'un budget. La première chose, parce que nous, on est des nouveaux députés, nous on nous a dit, alors, attendez, vraiment, le deuxième mardi du mois d'octobre, faut être là, il faut être bien sapé et tout, parce que là, normalement, le Premier ministre, il va faire son speech. Donc là, vous le savez, depuis plus ou moins, on va dire un an. Hein? Non, c'est vrai, c'est mis dans le règlement et tout, quoi, vraiment, en plus, vous êtes tous bien sapés, donc parfait. Mais deuxièmement, on vous avait averti l'année passée qu'avec les mesures que vous preniez sur votre budget, ça allait être vraiment un casse-tête incroyable l'année prochaine. Pourquoi? Parce que toutes les mesures que vous avez prises vont vraiment asphyxier notre économie et que toutes vos projections budgétaires ne valaient rien. Donc on vous en avertit en plus. Les gars, vraiment, ça va être difficile pendant les mois de vacances, vous allez voir, vous allez devoir à nouveau faire un trou. Parce que ça, c'est le paradoxe des libéraux. Hein. Ouais, nous, on est les libéraux, c'est cool, on a la classe, c'est nous qui allons régler tout du budget. Il n'y aura plus de trous, justement, la dette ne va pas enfler, mais c'est juste le contraire qui se passe, monsieur Boursu. C'est juste le contraire. Toutes les mesures que vous prenez, le trou, il devient de pire en pire. On descend, là. Et chaque année, vous allez dire, on va refaire payer les travailleurs, on va refaire payer les malades, on va refaire payer tout le monde, tous ces gens vont de moins en moins consommer. Résultat, prenez déjà rendez-vous, hein, collègues. L'année prochaine, ça va être à nouveau le casse-tête, hein. Pas 4,2 milliards, ce sera sûrement 5 ou 6 milliards. Donc on vous avait averti. Ça allait être difficile et vous êtes ici aujourd'hui incapable de venir présenter un budget. On va tout voir, Thème.
Ce que nous avons entendu, c'est qu'il y a bel et bien un accord parmi les partis de la majorité sur certains points. Tout le monde ici est d'accord pour aller chercher 1 milliard d'euros chez les malades. 1 milliard en remboursant moins les médicaments. Il y a un accord pour s'en prendre encore une fois aux chômeurs. Il y a un accord sur la flexibilité pour faire travailler des gens 45 heures par semaine. Sur tout cela, il y a un accord. Mais il reste un grand débat, le grand débat chez les partis du gouvernement, sur comment faire avaler la pilule aux travailleurs, pour leur faire avaler que cela fait 2 ans qu'on fait payer les travailleurs et les malades. C'est de ça que vous débattez maintenant.
Et ça, je ne peux pas accepter. Si aujourd'hui, c'est avoir une petite mesure symbolique pour faire avaler la pilule, vous n'aurez pas un soutien d'un parti comme le PTB pour ce type de budget. Parce que moi, je voudrais quand même dire quelque chose. Hein. Non, je sais que vous l'espériez. Moi, je ne comprends pas pourquoi, quand il s'agit de faire payer les travailleurs, c'est toujours du non symbolique. On augmente la TVA, on bloque les salaires, il n'y a pas de symbolique. Mais quand il s'agit de faire payer les riches, ah là, il faut rester dans le symbole, les gars. Pourquoi il faut rester dans le symbole? Parce que moi, je comprends les critiques quand on dit ce genre d'impôts ne sont pas rentables. Ben non, si c'est pour faire un petit impôt d'une raouette, comme par exemple un impôt sur les plus-values, sur les personnes physiques. Mais les riches, ils mettent où leurs actions pour les vendre? Pas en personnes physiques, hein, dans les sociétés. Donc si on veut faire payer les riches, arrêtons de les faire payer symboliquement, mais faisons une taxe qui est rentable, chers amis du CDNV. Et pour ça, et là vous aurez notre soutien, si on doit mettre des mesures en place, et tout le monde se pose la question, mais comment fait-on pour faire payer que ceux qui ont plus de 1 million d'euros, le pourcent ou les 2% les plus riches? Mais c'est simple, prenons tout simplement le patrimoine comme base. C'est quand même simple. Si je veux faire payer quelqu'un qui a plus de 1 million d'euros, ben, je fais une loi budgétaire pour faire payer ceux qui ont plus d'un million d'euros. Une taxe sur le patrimoine, c'est quand même pas compliqué. Et donc je pense aujourd'hui, et je finirai par ça, monsieur le président, que ce qui est intéressant dans la crise actuelle, parce qu'on peut parler d'une crise, c'est qu'on sent le souffle chaud de la lutte populaire présent ici aujourd'hui au Parlement. Gevoelt het.
On le sent. Il s'agit du besoin de faire payer les grandes fortunes. On le sent. Le mouvement social est présent ici. La pression en bas. Les gens en ont marre que les impôts soient injustes et que ce soit toujours les mêmes qui doivent payer.
Eh bien, cette intensité populaire, chers collègues, nous allons tout faire pour la faire augmenter dans les semaines à venir. Parce que votre faiblesse aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, mais elle rend espoir à tous ces citoyens de dire que ce gouvernement va faire reculer. Et je peux vous le dire que la brèche qui est là aujourd'hui, nous allons tous ensemble avec le mouvement populaire mettre la pression pour l'élargir encore plus et vous faire reculer. Je vous en prie.
Dank u, meneer Hedebouw.
Radio Campus Lille 106,6. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
C'est une fête internationale, mais c'est aussi une fête qui dépasse les clivages religieux, les clivages particuliers, et qui dit pour combattre le capitalisme, il faut l'unité la plus large à la base.
Traditionnelle, celle qu'on ne va pas rater, c'est celle du président du Parti du Travail de Belgique, Peter Mertens. Alors Peter, pour une fois, eh bien, on va vous demander de d'abord nous dire ce que vous pensez de la situation en France ces derniers mois, à la fois la situation avec la mobilisation sur la loi des patrons, hein, mais également la situation politique qui est quand même assez confuse peut-être.
Oui, je crois qu'en tout cas partout en Europe et sans doute aussi en France, il y a cette grande lutte pour déterminer l'agenda aussi dans les esprits des gens, où c'est un agenda de classe, où c'est un agenda de solidarité basé de classe, où c'est un agenda identitaire, un agenda de repli sur soi, un agenda nationaliste. Et donc, ce qui a été quand même fort pour le moment, vu de l'extérieur, vu de la Belgique, en France, c'est que malgré les attentats et la droite n'a pas encore vaincu tout cet esprit de classe. Il essaie, évidemment, ça progresse. Il y a le Front National, mais je crois que la seule réponse peut être la solidarité des classes, un agenda de classe. On riposte avec ça et de déterminer, au lieu des contradictions identitaires, de mettre les contradictions sociales sur l'agenda. Et, je crois que finalement, même les problèmes identitaires ont la même cause, le capitalisme et l'impérialisme, parce que pourquoi il y a les guerres, pourquoi il y a les réfugiés, pourquoi il y a le terrorisme qui explose maintenant dans notre figure, c'est parce que leur soi-disant lutte contre le terrorisme qui a été commencée par Bush en 2001, c'est totalement faillite, le monde est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dans le problème qu'en 2001. Et ça nous explose dans notre figure. Donc, et cette question de la guerre, et cette question de réfugiés, et cette question de terrorisme, et cette question de la lutte, des questions sociales, ils ont la même cause finalement, et ça, c'est à nous de le mettre en avant.
La lutte des classes, elle a été remise en avant effectivement par ce mouvement contre la loi travail. Elle n'a pas vaincu non plus, hein. Personne n'a encore vaincu, mais on a une difficulté en France, peut-être que, je ne sais pas si vous la maîtrisez, mais il n'y a pas de débouché politique à proprement parler à cette mobilisation. Une élection présidentielle arrive et on est à gauche complètement orphelin finalement d'un débouché politique. C'est peut-être quand même ce qui différencie nos deux pays.
Je crois en tout cas il y a question. Je crois en tout cas qu'on doit être d'accord que au sein de l'Union européenne, au sein de la politique de l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Donc il faut sortir ce cadre-là.
Il faut sortir de l'Union européenne.
Non, il faut sortir du cadre de l'Union européenne au niveau politique. L'Union européenne est gouvernée par la grande coalition des sociaux-démocrates et des démocrates chrétiens. Et donc, je ne crois pas que le futur de l'Europe peut être dans les mains ni des sociaux-démocrates, ni des démocrates chrétiens. Et donc, je ne crois pas non plus que le futur de l'Europe peut être dans les mains des institutions européennes actuelles, dans la Commission européenne. Je ne crois pas que le futur de l'Europe peut être dans les mains du pacte de stabilité. Donc il faut sortir de tout ça, donc on ne peut pas avoir une politique collaboratrice avec cette politique là je crois nulle part, parce que si, on vient d'avoir un débat avec sur la Grèce par exemple aussi, et Zoé Constantinopoulou elle était présidente du Parlement grec, elle dit maintenant on ne peut pas accepter quand même que la coalition actuelle en Grèce fait appliquer la politique des memoranda et fait appliquer une politique qui est encore plus grave, ce que PASOK faisait. Donc ça, ce genre de politique, les gens rendent extrêmement confus. Il faut moins de confus, il faut plus de clarté, je crois. Alors, je ne sais pas si je porte de la clarté avec mon français.
En tout cas, le PTB, sans doute, apporte de la clarté en Belgique, puisqu'on peut constater encore des progrès dans les sondages, puisqu'il n'y a pas eu d'élection récente, mais dans les sondages, avec quand même cette particularité que le PTB explose vraiment en Wallonie et beaucoup moins influent en Flandre. Est-ce que ça ne pose pas un problème, même au PTB, ce déséquilibre entre les...
Oui, ça pose un problème, parce qu'il faut... un petit problème, un problème gérable. Non, je crois vraiment que l'enjeu n'est pas dans la division, ni dans oui, un seul pays non plus, parce que...
On peut rappeler que c'est le seul pays national en Belgique.
Le seul parti national, effectivement.
Le seul parti, oui.
Oui, c'est ça. National, et, évidemment, mais selon moi, cette logique de division, de toujours diviser de plus, on ne peut jamais finir avec ça. Et on est... On n'a pas de force si on est divisé. Ça vaut pour la France, ça vaut pour la Belgique, ça vaut pour la classe ouvrière, partout. Ils essaient notamment de nous diviser. Donc je crois que c'est notre... c'est une pierre...
Angulaire,
merci camarade. De notre parti, de rester l'unité. Donc c'est gérable. Et en plus, il y a les sondages, mais... Ça ne reste que des sondages.
Oui, mais il y a quand même aussi une augmentation des adhésions.
Non, absolument. Il y a un travail sur le terrain qui augmente, et ça, c'est le plus important. Parce qu'il faut les sections qui sont fortes. Ça, c'est vraiment un travail de long haleine. C'est construction. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. C'est un travail de quartier, c'est un travail sur le terrain de l'usine, c'est un travail partout, quoi, où des gens vivent et travaillent ensemble. Il faut le construire, parce que si on construit ça, il y a des fondements qui sont solides.
Oui, oui.
Solides. Et s'il y a tempête, n'importe, on reste solide. Si on ne construit rien et on construit seulement notre parti dans les médias, il y a tempête, il ne reste plus rien du tout. Et on va avoir des tempêtes, parce qu'on ne peut pas continuer à
agrandir
sans qu'il y aura une réaction. Quoi.
À un moment donné, ils vont vous taper dessus.
C'est ça. Et donc là, il faut être solide, il faut l'avoir construit, il ne faut pas laisser...
On parlait de la loi la loi travail en France, mais vous avez la même loi, la loi Peters. Il y a aussi des attaques du gouvernement avec une certaine Maggie de Bloch qui, je pense, veut taxer les gens qui sont obèses, si j'ai bien compris.
Non,
je plaisante. C'est par rapport à elle. Et on apprend, il y a quelques jours, la fermeture de Caterpillar. C'est les mêmes logiques, finalement. C'est la même...
Oui, c'est fou, hein. Donc, c'est tout pour les actionnaires, c'est des dividendes qui grimpent et il y a une usine super moderne. Ouais. Si tu entres, ouais, c'est une usine à Gosselies qui est super moderne, les gens sont super qualifiés, ouais, ce sont des artisans modernes, les gens ont bossé dur là-bas. Et si tu entres dans l'usine, c'est presque Star Wars au niveau de modernité. Et ce n'est pas que notre société n'a plus besoin des bulldozers, n'a plus besoin des machines à construction. Non, ce sont des machines à construction. Mais le capitalisme et cette contradiction dans le capitalisme fait que les dividendes continuent
à augmenter.
Et ils mettent les gens dans la rue et ils essayent de mettre ceux de France, ceux d'Irlande, ceux de la Belgique les uns contre les autres. Donc, il faut quand même aussi, à ce niveau-là, une réponse européenne. Ouais, non tu...
Demain, c'est le discours du moment central. Quelle sera la teneur de ce discours? Qu'est-ce qui sera dit en quelques lignes, en quelques mots? Qu'est-ce qu'on dit en ce moment? Qu'est-ce qu'on doit dire en ce moment? Quand on est leader du PTB?
Non, il faut que tous nos camarades restent sur terre, quoi, les pieds sur terre. Parce que ouais, c'est bien d'avoir dans une dynamique qui continue et ça c'est important aussi parce qu'on a besoin de petites victoires aussi, hein, évidemment. Donc ça, mais il y a des grands défis devant nous, donc faut rester sur terre. Je crois qu'il faut réfléchir nous tous, comment mettre un discours de classe sur l'agenda politique au lieu de ce discours identitaire. C'est une difficulté, mais... Je crois que c'est la même chose en Belgique et en France, en Allemagne. Donc, parce que si les gens oublient les contradictions de classe par leur angoisse pour l'autre, donc c'est un enjeu pour tout le monde. Quoi.
Et est-ce qu'on réfléchit déjà à ce que sera la prise de pouvoir? Parce que si ce travail est fait, si les masses comprennent, si elles adhèrent, un jour vous gagnez les élections, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez un programme, est-ce que vous savez déjà, et est-ce que vous pensez pouvoir l'appliquer? Parce que, on parlait de la Grèce tout à l'heure, mais Tsipras avait un programme aussi, il a fait exactement l'inverse.
Non, je le vois, on n'est pas dans l'ère de contre-pouvoir, pas parce que notre but est le contre-pouvoir. Je déteste le contre-pouvoir, cette phase dure très longtemps. Mais ce n'est pas notre but. Notre but, évidemment, c'est changer la société vraiment et donc avoir le pouvoir populaire. Ça, c'est notre but. Mais on est dans une grande phase de contre-pouvoir, des expériences de contre-pouvoir, de construire une contre-hégémonie à cette hégémonie. Mais avec toujours le but d'un jour avoir un autre système, un système socialiste. Ça, c'est quand même notre but. Et ça, pour ma part, veut dire que ce n'est pas question dans cette Union européenne de participer au pouvoir dans un pays européen, parce que si on n'est pas prêt à faire le clash total avec les institutions européennes, si on n'est pas prêt à mobiliser toutes les masses pour faire ce clash ensemble, si on n'est pas prêt à avoir des autres partenaires dans le gouvernement qui veulent la même chose, c'est-à-dire organiser ce clash pour avoir une Europe, pas de profit mais des gens d'abord, on ne peut que perdre. Ça, je suis vraiment convaincu. Même si on a 20%, on va continuer à le dire. Nos adversaires nous attaquent là-dessus. Que oh, le PTP, beaucoup de pourcentage, mais ils ne veulent pas participer. Oui, on veut participer, mais pas selon leurs règles. Parce que là, on perd, tout le monde va perdre. On veut participer mais sur notre règle, sur notre rapport de forces, avec notre programme. C'est ça.
Merci, Peter Mertens.
Thank you. sommes avec Marco Vanès, bien connu de la radio, un petit peu aussi dans la région. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans le film Merci Patron, on le voit apparaître aux côtés de François Ruffin. C'est l'un des deux députés du Parlement fédéral en Belgique. Vous connaissez sans doute aussi Raoul Edebouw, dont les vidéos circulent beaucoup. Marco Vanès, c'est peut-être un peu plus l'homme de l'ombre, l'homme de dossier. Ma question, elle est simple, Marco. On le voit ici à Manifesta aujourd'hui, comme on le voit depuis quelque temps, on le voit dans les sondages, on voit qu'il y a une évolution favorable, positive, du Parti du Travail de Belgique. Mais on voit aussi, on sent aussi que ça peut générer des contradictions. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel afflux de militants, sans doute que vous aspirez aussi une partie, vous pouvez me confirmer, des électeurs socialistes qui ne sont peut-être pas totalement guéris. Voilà, est-ce que vous sentez ces contradictions? Est-ce qu'il y a éventuellement des tiraillements ou des discussions à l'intérieur du parti, dans la direction du parti, sur ces questions-là?
Enfin, d'abord, on est quand même très content de voir qu'il y a une progression de la popularité de notre parti, le PTB, notamment dans les sondages, ici la présence à Manifiesta et autres. Donc ça montre quand même que les gens sont en recherche d'autres choses que des partis traditionnels, de cette droite de plus en plus dure, de cette gauche qui fait une politique de droite. Voilà, de cette pseudo-gauche qui fait une politique de droite. Donc ça, c'est quand même un élément quand même éminemment positif. Alors c'est vrai qu'à côté de ça, effectivement, tout cet afflux de personnes qui sont enthousiastes par rapport au projet du PTB, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément au courant de toutes nos idées, qu'ils partagent peut-être certains pas toutes les idées, qu'il y a des questions plus difficiles pour certains. Il y a la question aussi du racisme, par exemple. On sait que le racisme, c'est quelque chose d'assez étendu, d'assez fort dans la société belge comme société française. Voilà, on sait par exemple qu'il y a une partie de nos électeurs potentiels qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément les mêmes idées que ce qu'on défend, que l'antiracisme radical qu'on défend. Il y a aussi la question organisationnelle, comment pouvoir avoir une organisation qui peut accueillir autant de gens qui sont demandeurs d'autres choses, de cette alternative qu'on représente. Donc oui, c'est pas évident, mais en même temps, c'est des enjeux qui sont enthousiastes. On est quand même dans une dynamique positive, il faut le reconnaître.
Alors, spécialiste, Marco, de la fiscalité, grand spécialiste sans doute de la fiscalité, et Dieu sait qu'en Belgique, il y a de quoi faire, hein, et que là aussi, on a des échanges franco-belges très intéressants, hein, la famille Mullier, des choses comme ça. Avec cette revendication majeure du Parti du Travail de Belgique, qui est taxer les millionnaires, hein, est-ce que tu peux d'abord nous la donner, et puis peut-être étendre un peu les revendications économiques, le programme économique du PTB, en tout cas dans l'immédiat, hein, je ne parle pas encore de la socialisation totale des moyens de production, ça viendra, mais qu'est-ce qu'un parti comme le PTB arrive en pouvoir, parce qu'on a eu l'expérience grecque par exemple, hein, qu'est-ce qu'il peut faire, et est-ce qu'il peut le faire justement avec l'Union Européenne?
En tout cas, le PTB s'inscrit résolument dans une alternative contre l'austérité. On est souvent confronté à cette question, vu qu'on monte dans les sondages, de la participation au pouvoir, surtout qu'en Belgique, c'est des gouvernements de coalition, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un parti seul qui va au pouvoir, c'est plusieurs partis qui se coalisent, et donc on est souvent confronté à cette question, on nous confronte souvent à cette question, est-ce que vous êtes prêts à aller au pouvoir avec les écologistes, avec les socialistes, etc. Et donc notre réponse est toujours la même, c'est que nous, on n'a pas d'exclusif en tant que tel, mais on ne va pas aller dans un gouvernement d'austérité. Or, ces partis qui se disent de gauche, ils ont signé le TSCG, par exemple le traité européen qui institue l'austérité dans l'Union européenne. Donc voilà, on ne peut pas accepter ce genre de politique, et donc on a une politique qui est un projet qui est d'aller à l'encontre de l'austérité, et donc notamment en allant chercher les richesses où elles se trouvent, d'où cette taxe des millionnaires consiste à aller à viser spécifiquement les 1 à 3% les plus riches de la population, mais surtout les 1% les plus riches qui en Belgique détiennent autant que les 60% les plus pauvres, donc 1% les plus riches qui détient 60%, autant que 60% de la population, c'est évidemment un déséquilibre au niveau de la distribution des richesses. Ce qui nous fait dire aussi, parce que souvent on nous dit c'est irréaliste votre taxe des millionnaires, parce qu'en taxant si peu de personnes, vous n'allez pas avoir autant d'argent. Mais je dis oui, parce que les riches ne sont pas nombreux, mais ils sont très riches, donc même avec un petit impôt sur cette fortune, vu qu'elle est colossale, elle représente donc le 1% le plus riche en Belgique. Possède 420 milliards d'euros à l'échelle de la Belgique, c'est gigantesque. Et donc voilà, en mettant une petite taxe sur cette fortune, il y a moyen d'aller chercher des ressources, de quoi mener une politique sociale qui va à l'encontre de l'austérité et qui au contraire permet de notamment refinancer l'enseignement, refinancer la sécurité sociale et tant de secteurs qui sont en cruel manque aujourd'hui.
Sur le chômage, puisque c'est aussi la question économique, il y a aussi du chômage en Belgique. Est-ce qu'il y a aussi des revendications ou un programme propre à éradiquer ce fléau, le vrai fléau?
Oui, tout à fait. Donc on a des revendications comme l'interdiction des licenciements et des mesures de ce genre qui vont évidemment à l'encontre de cette logique, de ce dogme, je dirais, de la compétitivité, hein, qui est un dogme qui mine la Belgique comme je pense tout, beaucoup de pays européens. Et l'exemple de Caterpillar, donc cette usine de Charleroi qui était il y a quelques années la plus importante usine de Wallonie et qui ferme aujourd'hui sur décision d'un état-major américain qui décide simplement de liquider une usine de 2200 personnes, non pas parce qu'elle est en perte, mais parce que depuis 22 ans, chaque année, elle augmente les dividendes. Chaque année, elle verse des dividendes qui sont supérieurs aux dividendes de l'année précédente, avec ça comme seule perspective de développement. Et donc, ça montre qu'une usine comme ça, qui a profité de toutes sortes de cadeaux fiscaux et sociaux au nom de la compétitivité, eh ben que c'est une fausse politique, c'est une politique qui ne marche pas. J'ai eu l'occasion de le dire au Premier ministre Charles Michel jeudi passé en séance plénière à la Chambre. Votre politique, ça ne marche pas. Et le problème n'est pas le coût du travail, le problème, c'est le coût du capital. Ça, Caterpillar le montre, puisque Caterpillar a bénéficié des fameux intérêts notionnels, qui sont une des spécialités fiscales belges pour les multinationales, a profité des réductions de charges sociales qui minent la sécurité sociale, a profité encore de toutes sortes d'autres mesures, y compris du saut d'index, qui est une mesure qui a été décidée par le gouvernement au nom de la compétitivité, mais qui a réduit le revenu des travailleurs. Voilà. Caterpillar a profité de tous ces cadeaux et ça n'empêche pas Caterpillar de fermer cette usine majeure pour la région de Charleroi.
Moi j'y crois. Je vois ce parti se développer. Il y a d'autres parties du monde aussi où il y a le même type de dynamique, de mouvement. J'y crois. Je crois ce programme anti-austéritaire. Je pense aussi que c'est de toute façon la seule solution. C'est possible parce que c'est nécessaire. Hein. Bon. Mais l'Union européenne ne voudra pas, Marco.
L'Union européenne ne voudra pas. L'Union européenne ne voudra pas, mais je vois que les lignes bougent, et notamment aujourd'hui ou hier, sur la pression, je pense, de la montée du PTB dans les sondages, il y a Magnette, donc qui est le chef de gouvernement au niveau de la Wallonie, Paul Magnette, donc qui a une position de recul par rapport au dossier Caterpillar, parce que déjà il a abandonné l'idée de sauver l'usine, mais qui veut en tout cas récupérer l'infrastructure, le terrain de l'usine pour le plus vite possible pouvoir faire une reconversion un peu illusoire, je pense. Mais il est même dans ce plan-là, qui est un plan B, hein, par rapport au sauvetage de l'usine, il est confronté à une réalité des règles du capitalisme et de l'Union européenne, qui est de dire, ben voilà, il y a une propriété privée, on ne peut pas mettre la main sur le site comme ça, c'est la propriété de Caterpillar. Et donc lui-même, il dit, ben, s'il faut, on ira, on fera des choses illégales, quoi. On ira au-delà de ce que peut imposer l'Europe. Et on voit que dans le dossier des banques, dans la crise financière de 2008, bah, toutes les règles européennes, du jour au lendemain, elles ont été battues en brèche. Donc voilà, je pense que les règles, voilà, ces règles, la loi belge, les lois européennes, etc., c'est quelque chose qui fonctionne tant qu'on y croit, tant qu'on s'y soumet. Mais à partir du moment où on peut établir un rapport de force qui peut les ébranler, eh bien, ça devient très relatif en fait comme règle.
En vrai, c'était bien Marco Vanesse, l'un des deux députés fédéraux belges du PTB.
Ah ouais, fédéraux
ou wallon.
Je confirme.
En qualité d'huissier. C'est pas un imitateur. C'est pas un imitateur.
C'est lui.
Hein, parce qu'on sait que les Français aiment bien imiter les accents belges et tout ça.
Voilà, mais non, c'est non, pas moi. C'est lui.
T'as pris une photo de toute façon.
J'ai pris une photo.
Voilà. Elle va passer sur antenne, donc regardez bien votre poste, votre transistor là. Ouais, ça va passer dans deux. Voilà, vous l'avez vu.
Voilà.
Tout le monde l'a vu. Merci Marco.
En we tieren! Want we hebben überhaupt elke dag wel iets meer. Hey, het is oké om lekker arrogant te zijn. En als we dan je miljoen zijn, dan shoppen we bij Albert Heijn. Het is nog niet normaal dat ik hier meer betaal. We spreken zo gezegd allemaal dezelfde taal. Hey, het is oké om lekker arrogant te zijn. En als we dan bij jullie zijn, dan shoppen we bij Albert Heijn. Het is niet normaal dat ik hier meer betaal. We spreken allemaal zo gezegd dezelfde taal. Ho! En verslaafd aan zonder acties. En we lachen en we brullen en we roepen en we tieren. Want we hebben overhand elke dag wel iets te vieren.
Aleida Guevara.
Necesitamos educación como un derecho y no un privilegio. Necesitamos atención médica al alcance de todos en cualquier lugar donde vivamos. Tenemos que hacer producir la tierra. Tenemos que hacer producir la tierra para alimentarnos, respetándola y cuidándola como la gran madre de todos nuestros pueblos. Y no como un objeto vendible a transnacionales que ni siquiera la protegen. Tenemos que preservar nuestros bosques, porque solo así respiraremos. ¿Y cómo lograremos todo esto? Uniéndonos, sin ver el color de nuestra piel, ni el género que portamos, ni el idioma que hablamos, ni la religión que profesamos. Solo tenemos que ser capaces de sentir el dolor de nuestra gente en cualquier rincón del mundo y levantar nuestras voces y nuestros brazos para protegerlos, para ayudarlos. Organicemos nuestra fuerza para sentir el poder que de nosotros emana. Sí podemos, compañeros. Lo dice una mujer cubana, lo dice un miembro del Movimiento Sin Tierra de Brasil, lo dice una médico que ha trabajado junto a jóvenes profesionales argentinos en las selvas misioneras y ha sentido el amor y la fuerza del deber cumplido. Lo dice la hija de un hombre que se despidió de su pueblo diciendo hasta la victoria siempre. junto a nosotros con su ejemplo de vida, con su coraje, pero por sobre todo por su gran capacidad de amar. Si queremos, podemos. Hagamos realidad nuestra utopía. Un mundo mejor es posible. Un mundo mejor es imprescindible. Termino mis palabras con la última estrofa de una de las canciones más conocidas e interpretada por todo el mundo en prácticamente todos los idiomas, pero que en la versión en castellano resume todo lo dicho anteriormente. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. Los odios que al mundo envenenan, al punto se extinguirán. El hombre del hombre es hermano, cese la desigualdad. La tierra será el paraíso más bello de la humanidad. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. Los odios que al mundo envenenan, al punto se extinguirá. El hombre es hermano, cese la desigualdad. La tierra será el paraíso más bello de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final.
Horrible por dentro.
Sur les marches du Palais des Festivals à Cannes, en compagnie de François Ruffin. François Ruffin, réalisateur du film Merci Patron. François, merci de nous accorder cette interview exclusive avant même NBC, CBS, machin, c'est tout ça. Le succès du film Merci Patron, en quelques chiffres.
Bah, écoute, une rentabilité qui dépasse les espérances de Bernard Arnault. À deux ou trois chiffres, et puis 500 000 entrées en salle. Donc voilà, Bernard est très content du business plan qu'on lui a monté.
Alors plus sérieusement, tu as tourné un petit peu dans toute la France, et même au-delà, me semble-t-il, y compris en Belgique. Hein, on est à Manifiesta ici en Belgique. À chaque fois, des diffusions avec des débats. Hein, et vraiment des effets de ce film sur les travailleurs, sur les gens qui ont vu ce film, c'est impressionnant. Tu t'y attendais un peu?
Bon, moi j'étais convaincu que le film aurait du succès dès l'automne dernier, il y a un an, parce que je me disais, la gauche traverse un désert de morosité, moi je propose une oasis de joie, et donc il y aura du monde pour venir s'y abreuver. Ça, je l'ai vérifié, parce qu'en fait le succès du film, moi j'ai surtout mesuré lors des avant-premières qui se sont déroulées à l'automne et puis cet hiver, quoi. Après le film, il a vécu sa vie, et là j'ai vu qu'en effet les gens, ils en ressortaient avec la pêche, quoi, avec le sourire et avec un désir de combativité. Et ça, je l'ai bien mesuré. Et ensuite, j'ai pu voir ça non plus dans les salles, mais que ça donnait quelque chose dans la rue, puisque lors des manifestations sur la loi travail et puis tout ça, d'abord, il y a plein de syndicats qui nous demandaient à pouvoir projeter le film dans leur union locale et tout ça. Et moi, je veux dire, je prenais des bains de foule à la Générale de Gaulle dans les manifs, tellement les gens, il suffisait qu'ils voient mon visage pour que ça leur rappelle des bons souvenirs et qu'ils rigolent, quoi.
Tu parlais du mouvement sur la loi contre la loi de travail. On se souvient que au cœur de ce mouvement, il y a eu le mouvement Nuit Debout, et tu as joué un rôle dans ce mouvement. Est-ce que tu peux en tirer un bilan, nous dire d'abord quel rôle tu as joué, parce qu'on t'a vu avec Lordon notamment, mettre en avant ça. Je t'ai entendu depuis avoir des réflexions, disons, plus critiques vis-à-vis de ce type de mouvement.
De toute façon, c'est pas parce qu'on est dans un mouvement qu'on doit s'interdire d'avoir une critique de ce mouvement. Au contraire, il s'agit d'en poser les limites pour pouvoir ensuite les dépasser. Donc voilà. Alors je suis à l'initiative, on peut le dire, avec Frédéric Lordon de Nuit Debout, et puis voilà, la réunion où se décide l'occupation de la place de la République, c'est une réunion organisée par Fakir la veille du lancement de Merci Patron, le 23 février à la Bourse du Travail à Paris. C'est là qu'on décide d'occuper une place, on ne savait pas ce que ça serait, le 31 mars, le lancement de l'occupation le 31 mars, il y a un discours de Lordon et il y a la projection de Merci Patron. Donc je veux dire, le lien entre Merci Patron et Fakir et le mouvement Nuit Debout est assez net. Par contre, à partir de ce moment-là, je dirais, Nuit Debout vole de ses propres ailes ou ne vole pas, ça dépend des moments. Après, moi, je pense qu'il faut regarder globalement ce qui s'est passé au printemps et pas seulement se concentrer sur Nuit Debout. Il faut se souvenir que ça part aussi du collectif On Vaut Mieux Que Ça, avec des vidéos sur Internet, qu'il y a eu la pétition Loi Travail Non Merci avec plus d'un million de signatures, qu'il y a eu la manif du 9 mars qui n'est pas à l'initiative des syndicats au départ, et voilà, qu'ensuite il y a eu des grèves et des manifestations et puis des blocages et tout ça. Et donc moi je ne me concentre pas spécifiquement sur Nuit Debout, mais je regarde l'ensemble de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le mouvement sur la travail, il me semble, c'est son originalité, il a eu toute une série de registres, toute une série de formes, et qui fait qu'il y a plein de gens qui ont pu s'y reconnaître, parce qu'ils se reconnaissent soit dans la manifestation, soit dans les vidéos sur Internet, soit, enfin, vous voyez, et donc je pense que c'est ça qui est intéressant dans le mouvement sur la loi travail. Je dirais, pour positiver encore, que ce printemps, à gauche, il s'est enfin passé quelque chose. Je disais tout à l'heure sur le désert de morosité, je veux dire, on se faisait chier, au moins, ce printemps, on ne s'est pas emmerdé. Je ne dis pas qu'on a gagné, mais au moins, on ne s'est pas emmerdé. Et il s'est passé quelque chose à gauche. Et ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas passé quelque chose à gauche. Donc on peut toujours, après je peux pointer les limites, hein, l'hyper-démocratie du mouvement Nuit Debout qui fait qu'ils sont infoutus de prendre une décision, le rapport un peu trop compliqué moi je trouve au syndicat alors que ça aurait pu venir beaucoup plus naturellement, et puis il y a une France, la France invisible qui n'a toujours pas été visible dans le mouvement Nuit Debout, les travailleurs comme les Clures qui sont au cœur de mon film, évidemment se sont pas reconnus dans le mouvement Nuit Debout, donc voilà. Et mais je pose ces limites là non pas pour dire qu'il fallait pas que ça ait lieu ou que c'est négatif que ça ait eu lieu, mais pour dire voilà, si jamais on doit travailler une suite de quelque chose, si on doit relancer quelque chose, bah il y a eu ces obstacles là et bah il faudra y penser peut-être un petit peu à l'avance quoi.
Je sais pas si c'est toi qui l'as dit, je pense que tu as dû l'écrire ou le dire quelque part, mais de toute façon c'est très juste.
Tu connais pas mes œuvres complètes alors, c'est ça que tu es en train de.
Je les apprends. Je les ai lues, mais.
De là, les apprendre par cœur, tu n'en es pas encore là.
Non, mais je les ai lues deux fois.
Normalement, je parle plus aux gens qui connaissent mes œuvres complètes par cœur.
Non, s'il te plaît.
Sinon, les chevilles, ça va.
Non, je me casse moi si t'as pas tout lu. Non, j'ai.
L'idée un petit peu de Nuit Debout, c'était un petit peu de faire converger dans un même mouvement, ce qui est nécessaire, et ce qui est, je dirais, même une démarche marxiste, de faire converger les travailleurs et leurs organisations avec, on va dire, des gens qui sont un petit peu en dehors, pour plein de raisons, hein, y compris la petite bourgeoisie, voilà, les gens qui sont sur des idées de démocratie totale, etc., des idéalistes, quoi. Hein. Et tu disais aussi que finalement, en fait, quand tu parles des Clures, ils se retrouvent ni chez les uns, ni chez les autres. C'est sans doute aussi ce qui manque actuellement à notre gauche et au mouvement en général des travailleurs, quoi. Le point de vue de beaucoup de gens dans Nuit Debout sur les syndicats, tu disais qu'il y avait une distance. On a quand même eu, alors les syndicats ils sont éminemment critiquables comme tout le reste, mais il y a syndicats et syndicats, et on a vu notamment une CGT qui est l'organisation historique du mouvement ouvrier en France, qui de mon point de vue s'est quand même bien conduit pendant toute cette durée, et on a eu du mal à les critiquer quand même.
On n'est pas obligé non plus, hein, on n'est pas obligé de se forcer, hein. Non mais voilà, quand on trouve que on a plutôt une organisation combative dont la ligne est à peu près claire une fois passé le congrès, parce que il y avait des trucs préalables au congrès et tout ça. Donc, alors après il y a plusieurs CGT dans la CGT et puis tout ça, mais enfin globalement quand ça se passe bien, on peut le dire aussi. Donc voilà, et y compris le rapprochement. Bon, moi je me bagarrais au sein de Nuit Debout pour qu'il y ait un rapprochement avec le mouvement syndical et dans les syndicats pour qu'il y ait un rapprochement avec Nuit Debout. Je pense que pour qu'un moteur explose, il faut que deux ingrédients se rencontrent. Et je dirais que c'est à partir du moment où il y a une masse critique qui est atteinte que des Clures ou des travailleurs non spécialement politisés peuvent commencer à se dire il y a un truc qui existe, quoi. Donc ça a été compliqué. Je pense, voilà, il y a une vision des syndicats chez un certain nombre de personnes qui est un peu, c'est un peu crispé, quoi. Et donc il faut bosser là-dessus. C'est ce que je me suis efforcé de faire. Et quand même, on a eu Philippe Martinez, le secrétaire de la CGT, qui n'a pas été du tout réticent à venir s'exprimer, y compris dans des conditions pas forcément faciles, place de la République, devant les gens de Nuit Debout. Moi, j'ai juste, quand j'étais dans tout ça, je faisais avec un souvenir qui est, là, tu vois, là, il y a mon bouquin avec l'un de mes héros, Maurice Criégeol-Varémont, libérateur de Paris en août 1944, et qui est l'un des grands héros de la résistance. Et qui, j'aime beaucoup Criégeol, à la fois parce qu'il est passé par le Parti communiste et parce qu'il en a été exclu. Donc ça fait deux bonnes raisons de l'aimer, quoi. Il me disait, en 68, quel couillon les communistes à interdire aux ouvriers, aux jeunes, aux étudiants d'aller dans les usines. Bon, d'accord, si les étudiants ils étaient rentrés dans les usines, peut-être qu'ils seraient arrivés avec leur slogan gauchiste et puis ils seraient un peu fait drôle aux ouvriers et tout ça, mais en même temps ça aurait transformé les étudiants aussi d'aller au contact des ouvriers. Et là, il y a eu une volonté de cloisonnement pendant mai 68. Mai 68, l'originalité du mai 68 français, c'est qu'il y a eu un mouvement étudiant et un mouvement ouvrier, il y a eu les deux, mais qui ne se sont pas rencontrés. Et c'est vrai que je vivais Nuit Debout, qui n'a pas l'importance de mai 68, hein, que les choses soient claires. Mais en me disant, mon petit rôle là-dedans, c'est que s'il y a quelque chose qui peut se rencontrer, je dois être un point de contact entre les deux. Et donc je ne voulais pas qu'on reproduise la même chose, et donc voilà, je m'appliquais parfois de manière un peu désespérée, à vouloir opérer une jonction entre un peu le mouvement syndical et Nuit Debout, quoi.
Le Fakir de septembre-octobre vient de sortir, François. Ça marche bien, Fakir. au niveau trésorerie, tout ça, je crois que ça va.
ça va. Écoute, on est une organisation de gauche qui n'avons pas à faire la mendicité pour perdurer. Donc on va pas s'en plaindre. Non, ça va plutôt bien. Et écoute, bon, de manière modeste, mais ça va.
C'est dans les kiosques ou pas?
Oui, bien sûr, ouais.
Dans tous les kiosques
C'est dans 7 à 8 000 kiosques en France. C'est pas tous les kiosques, mais enfin, ça se trouve partout. Quand même.
Faut s'abonner à Fakir.
Écoute, moi...
un empire, finalement. Un empire
Je sais pas, mais... Après, moi, il y a le nombre... Il y a deux choses qui comptent. C'est comme pour l'Europe, c'est élargissement, d'accord, on augmente notre nombre, mais c'est approfondissement. C'est-à-dire que le lien avec nos lecteurs, il faut qu'il soit fort. Et on sent qu'il est fort, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont envie de s'engager dans Fakir, non pas comme dans un parti et tout ça, mais de soutenir le journal en tenant des stands à droite, à gauche, en le portant dans les manifestations et tout ça, et aussi en, éventuellement en montant des actions avec nous. Donc on est dans une position qui est un peu bizarre, entre journal et pas parti, pas syndicat, mais un truc qui est un journal d'action, donc je sais pas trop. Voilà.
Il faut dire aussi à nos auditeurs que c'est un journal vachement marrant. Il faut
quand même on essaye.
Même plus marrant que le dessin de Charlie Hebdo actuel.
Je lis plus Charlie Hebdo, donc je peux pas témoigner sur ce plan-là.
Ils ont fait parler d'eux il y a pas longtemps avec un dessin à la con.
Oui. Mais on essaye. Nous, tu en dis, mais je crois que c'est une démarche sur laquelle on peut se retrouver. Il faut pas que militant rime avec chiant. Il faut trouver les formes nouvelles qui permettent aux gens de se reconnaître et qu'on soit pas dans à ressasser les formules. Donc sérieux sur le fond et drôle sur la forme, on essaye du moins.
Est-ce que Fakir paye son coup le 19 octobre? Parce qu'on va descendre chez vous là, Amiens, le 19 octobre. Tu sais pourquoi?
Normalement, on a le meilleur punch de Picardie, donc on pourra vous servir le meilleur punch de Picardie, donc à l'occasion du procès des Goodyear.
Voilà, ça c'était un message à l'attention des milliers d'auditeurs de Radio Campus, qui sont donc invités chez François directement, parce que je crois que ça se fera dans ton jardin.
J'ai pas de jardin, mais c'est pas grave. Moi, tu sais, il y en a qui sont grands fans de l'école publique, et mes enfants sont dans l'école publique, mais moi je suis aussi fan du jardin public. Je considère que le parc, le jardin public, c'est un lieu socialement intéressant pour rencontrer des gens et tout ça. Donc je n'ai pas de jardin privé, mais en face de chez moi, j'ai un jardin public. Donc voilà.
Merci François, donc au 19 octobre.
Hein. Voilà, ça roule.
Michael Ouamin, je suis un des 8 salariés de Goodyear et condamné à de la prison ferme. Si aujourd'hui je suis devant vous et si je peux m'exprimer, c'est parce que j'ai fait appel de la décision le jour même où elle est tombée. Cette décision, qui est une décision unique sous la 5e République française, ce qui faut compter à bien longtemps pour avoir des condamnations de la prison ferme de simples salariés ou syndicalistes, c'est une décision qui est avant tout politique. On veut à travers cette condamnation faire passer un message. Parce que depuis le 12 janvier en France, il y a eu ce qu'on appelle la loi travail et a démarré derrière un combat qui continue, puisque le 15 septembre, j'étais encore dans les rues de Paris avec des centaines de milliers de camarades pour dire non à cette loi travail qui est une loi européenne imposée par l'Europe à tous les peuples, à tous les pays, pour permettre aux patronats et notamment les multinationales d'écraser encore plus leur pouvoir et effectivement s'asseoir encore un peu plus sur nos droits quotidiens. Partout où cette loi allait passer, elle n'a pas créé plus d'emplois, elle a créé plus de dumping social, plus de misère, plus d'exclusion et surtout moins de droits pour les salariés. Pour résumer, chez Goodyear en 2007, la multinationale qui est la plus puissante du monde, ils font 2,5 milliards de profits après impôts et ils versent plus d'un milliard de dividendes par an aux actionnaires. En 2007, quand ils ont décidé de vouloir fermer notre usine, nous on a dit que c'était hors de question. Hors de question qu'on accepte qu'un groupe qui fasse autant de profits puisse nous liquider et nous licencier. Et Goodyear savait pertinemment que la fermeture d'usine lui coûterait de l'argent puisque ça lui coûtait 200 millions de dollars. 200 millions de dollars le coût de la fermeture. Mais la seule chose qu'il ne savait pas, c'est comment on allait s'organiser et comment on allait résister. Et on a résisté pendant plus de 7 années avec les camarades dans l'entreprise. Et pendant 7 ans, on a ridiculisé cette société américaine. Et on a démontré qu'en France, parce qu'on était en capacité de le faire avec des camarades, avec à la fois la justice et à la fois le social, on est en capacité de mettre en échec cette multinationale, même si elle était très puissante. Et parce que cette multinationale a été mise en échec, et surtout parce qu'on a donné des idées à plein d'autres camarades en France, de dire que la lutte, la seule qui vaille, c'est pas celle pour aller chercher des indemnités, mais c'est celle de garder son emploi, sa dignité, et puis surtout on a besoin d'emplois industriels dans notre pays, parce que c'est la seule chose aujourd'hui qui vaille, c'est la seule chose qui nous fait bouffer, la seule chose qui fait tourner nos communes, nos régions, nos villes, nos villages, c'est l'emploi industriel. Et parce qu'on s'est battu comme ça et qu'on a donné des idées aux autres, la direction du groupe Goodyear a décidé, aidé par l'État français, ça a été dit tout à l'heure, les socialistes sont arrivés au pouvoir en 2012 et c'est certainement la pire des choses qui nous est arrivée. Parce qu'effectivement, le président François Hollande est venu sur notre parking le 31 octobre 2011 nous dire que s'il était élu président, il ferait voter une loi prenant en compte tous les mouvements sociaux mais aussi toute la jurisprudence française pour créer une loi pour interdire les licenciements dans les grands groupes qui font du profit. Et donc quand il a dit ça, on s'est dit, enfin, on va pouvoir un peu se reposer parce qu'une loi va nous permettre effectivement de poser et d'obtenir à travers une loi ce qu'on attend depuis des années. Et bien, c'était sans compter ça un mensonge d'État, puisque non seulement cette loi n'est pas arrivée, mais qu'au lieu de ça, on nous a mis en place ce qu'on appelle l'ANI, qui est une loi qui sécurise les licenciements mais qui ne sécurise pas l'emploi, et puis maintenant c'est la loi travail. Et le gouvernement, il avait besoin en France de faire passer un message fort. Il fallait condamner le plus lourdement possible ceux qui ont osé s'opposer à un grand groupe pendant plus de 7 ans. Et puis surtout, il y avait en toile de fond cette loi travail, et comme je l'ai dit, elle est passée en Espagne, elle est passée dans d'autres pays, elle crée la misère totale. Et il fallait surtout faire passer un message le 12 janvier, c'est que tous ceux qui releveraient la tête seraient sensibles d'avoir la même peine que les camarades de Goodyear. Et depuis, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit? Il y a une violence policière dans les manifestations que moi je n'ai jamais connue. Jamais il y a eu autant de répression. Et pas plus tard que le 15, donc avant-hier, on a un jeune camarade militant d'une organisation syndicale qui s'appelle Solidaire, qui a pris en fin de manifestation un objet tiré par les forces de l'ordre dans l'œil, il a perdu l'œil. Et aujourd'hui, dans les médias français, on entend parler que des forces de l'ordre ont été bousculées, mais on ne parle même pas de ce gamin qui a perdu un œil. Et c'est le lot quotidien des manifestants dans notre pays. Tous les jours, c'est la répression. On a des jeunes militants qui sont débarqués de chez eux à 6h du matin. On les met en garde à vue, comparution immédiate, et on les emprisonne. On emprisonne des simples militants parce que le seul délit qu'ils auraient commis, c'est celui de relever la tête pour demander un monde meilleur et surtout un monde plus juste et certainement moins juste que celui qu'on veut nous imposer depuis tant d'années. Et en France, on a des personnalités politiques qui ont détourné des millions d'euros, qui sont à l'origine même de l'effondrement de notre pays. Et ces gens-là, non seulement ils ne sont pas condamnés, mais ils viennent nous faire la morale, ils se représentent et ils pensent être réélus. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Alors oui, je suis certes condamné, comme sept autres de mes camarades, mais j'avais deux possibilités. Suite à cette condamnation. Soit je baissais la tête et je pensais qu'au bout de 10 ans j'en avais fait assez, je pouvais rentrer chez moi, soit je relevais la tête et c'est ce que j'ai fait, parce que là, je n'ai rien fait de mal. La seule chose que j'ai fait de mal, c'est de permettre à plus de 1500 salariés en France de continuer pendant 7 ans à pouvoir vivre, à pouvoir nourrir leurs gamins, à pouvoir payer leur maison, à pouvoir arriver à la retraite. Voilà, c'est ça la réalité. Alors effectivement, Goodyear a retiré ses plaintes. Les deux cadres en question ont retiré leurs plaintes. Et moi, je pensais que l'affaire serait tombée, puisque quand il n'y a plus de plainte, il n'y a plus de plaignant. Quand il n'y a plus de plaignant, c'est classé sans suite. Sauf que l'État français, puisque c'est le parquet qui nous poursuit, l'État français a décidé de nous faire la peau. Quand je dis « nous », ce n'est pas nous les 8 de Goodyear, c'est nous tous ceux qui, aujourd'hui, demandons l'arrêt immédiat de la casse telle qu'elle nous a été promise depuis plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'on a obtenu depuis 40 ans? Regardez ce qui se passe. Ils nous parlent de réformes au quotidien. Il faut réformer. Plus ils font des réformes, moins ça va bien. Moins ça va bien, plus ils font de réformes. Le gouvernement français a proposé et a mis sur la table 40 milliards d'allègements de charges demandés par le patronat français. 40 milliards. Ces 40 milliards devaient, soi-disant, selon le patron du MEDEF, créer près de 2 millions d'emplois. Aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul emploi de créé. Les entreprises ont bien eu les 40 milliards d'aides CICE via des réductions d'impôts massives, notamment pour les multinationales. Et en contrepartie de ça, on a détruit des emplois. Parce que moins de charges, c'est moins de salariés, c'est forcément moins de charges. Et on est dans un système, effectivement, qui est totalement corrompu et qui fait qu'on est dans des systèmes de vases communicants entre d'un côté ceux qui nous gouvernent et d'un autre côté ceux qui décident dans nos entreprises, qui en réalité, quand on regarde bien, sont exactement les mêmes personnes. Et on s'attaque aux services publics. Chez nous, c'est la casse du transport avec la SNCF, c'est la Poste. Voilà, donc il y a à travers toutes ces attaques qui sont menées une réelle envie, non pas en France, mais je pense qu'il faut regarder plus largement en Europe. C'est en Europe que le monde du travail est mis à mal par ceux qui nous gouvernent avec leur fric. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est pas d'un côté les Français, de l'autre côté les Belges, d'un autre les Espagnols ou les Grecs. Regardons le peuple grec. Le peuple grec aujourd'hui a été détruit par la finance. Détruit par la finance. Le peuple grec, c'est tous les jours, il faut faire des efforts. C'est pour les retraités encore moins chaque matin. Pour ceux qui bossent, on veut leur laisser croire qu'ils ont l'avantage de bosser. C'est l'esclavage des temps modernes. Je suis allé en Espagne passer quelques jours avec des amis. Quand je discute avec les jeunes, parce que je ne fais pas que du voyage pour aller voir la plage, j'essaie aussi de m'intéresser à ce qui se passe dans les pays, ils me disaient, les gamins, on travaille pour moins de 400 euros par mois. Et ça pose des problèmes d'intergénération dans les familles. Mon père, il a 60 ans, il continue de bosser. Moi, j'en ai 35, j'ai toujours pas de boulot. Et quand j'en trouve un, c'est 400 euros par mois. Et donc, je peux pas partir. Donc, tout ça, ça doit nous laisser penser quand même que, je sais pas jusque où il va falloir qu'on attende pour que le peuple européen se réveille et daigne enfin aller dans la rue en masse, le même jour, le même heure, au même endroit. Et je pense qu'on a une confédération européenne des syndicats. J'aimerais savoir à quoi elle sert, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je l'ai vu dans le coup de cœur, on nous a mis en concurrence non plus avec Michelin ou Bridgestone ou Pirelli. Mes concurrents vis-à-vis de mon patron, c'était les mêmes salariés du même groupe que moi, mais ailleurs en Europe. Voilà. Et là, la concurrence, elle est exacerbée. Et on a fermé notre usine parce que le coût de production, entre guillemets, il était supérieur de 25 centimes d'euros du kilo du pneu. Voilà. Mais en réalité, c'est pas ça. On ferme les usines parce que surtout, il y a des pays où il n'y a pas de droit pour les salariés. En France, on se blesse, on est une victime. Dans certains pays, on se blesse, on est un coupable, on est licencié sans indemnité, voire même poursuivi. Sauf qu'en France, ça commence à arriver. La semaine dernière, une salariée de la Poste a fait un AVC sur son lieu de travail. Le salarié qui a dénoncé auprès de son supérieur hiérarchique le fait que sa collègue faisait un AVC est aujourd'hui licencié. Objectif du patron, c'est de dire qu'à travers ça, il a généré un trouble manifeste dans l'élan de productivité sur la journée en tant que telle. Donc on est vraiment dans une problématique où ils n'ont plus aucune limite. Et effectivement, le gouvernement français, sous couvert de tout un tas de choses qui sont plus horribles les uns que les autres, les attentats, c'est ce qu'il a de pire, des saloperies, c'est ça. Mais le gouvernement se sert de ça pour nous oppresser encore plus avec un état d'urgence qui est devenu permanent, avec un état d'urgence qui fait qu'on est dans des manifestations, on est fouillé, on est quasiment interdit de sortir. C'est les préfectures qui nous donnent les mots d'ordre ou pas de manifester. Ils nous permettent d'avoir un cortège ou pas avec un parcours. C'est eux qui décident maintenant des parcours. Donc on arrive réellement dans quelque chose qui est complètement nouveau. Et il faut mettre avec la loi travail tout ce qui est en train de se passer dans notre société. La loi travail, et ça je pense que chacun doit bien être conscient, en tout cas moi je le dis partout où je vais, parce que je vais aussi dans les facs en France expliquer aux jeunes ce qui se passe, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe, mais je pense que quand on a vécu ce qu'on a vécu chez Kudjer, on a aussi un devoir de moralité, c'est d'expliquer aux autres ce qui peut aussi leur arriver demain et comment ça ne peut pas leur arriver si on est tous ensemble, parce que c'est ça le vrai problème de fond. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la loi travail en France, c'est pas une petite modification à la marge d'un article du Code du travail. C'est la destruction pure et simple de tout ce qu'on a obtenu pendant des dizaines d'années. C'est un retour en arrière sans précédent. C'est-à-dire qu'on sera non seulement licencié dans des grands groupes qui font des profits, sauf qu'ils ont réussi à magouiller ensemble et à s'entendre sur le fait que n'entendons plus comme groupe le groupe au niveau de sa maison mère, puisqu'on sait tous qu'ils ont créé des holdings financiers avec des paradis fiscaux. Et là où se fait le bénéfice, c'est plus là où on travaille. Le bénéfice est envoyé directement dans des maisons mères, notamment au Luxembourg ou à Amsterdam, où là, effectivement, on expurge complètement le flux du travail des salariés et on n'en garde que le gain financier. Et la France, jusqu'à aujourd'hui, quand on allait au tribunal, on gagnait devant les prud'hommes. On ne gagnait pas malheureusement le retour à l'emploi, mais on obtenait les indemnités complémentaires. Mais on obtenait le fait de gagner parce qu'il fallait aller chercher les profits là où ils étaient. Avec la loi travail, parce qu'on dit la loi El Khomri, mais c'est du pipeau. Je veux dire, la loi El Khomri, c'est la loi du marché européen. C'est, elle s'appelle comme ça, elle pourrait s'appeler partout dans un autre pays avec un autre nom, ça n'empêche que c'est la même loi dictée par les mêmes personnes au départ. Et donc, cette loi travail, elle va permettre maintenant que les entreprises comme Bouygues vont pouvoir venir dire « j'ai perdu des commandes sur une usine en France, sur une usine en Angleterre, sur une usine en Italie ». Or, en faisant ça, à partir du moment où les usines ne sont plus des centres de fabrication, de vente et de gains, mais uniquement des centres de façonnage, on arrive facilement avec des verrous tout à fait automatisés via les grands cabinets d'avocats que les grands groupes prennent, qui coûtent 20 millions d'euros par an, ils font des montages scandaleux pour dire « voilà ». On a une baisse des carnets de commandes pendant 4 trimestres, on a une baisse du chiffre d'affaires forcément pendant 4 trimestres. Tout ça aurait été décidé par qui? Non pas par le marché du pneu, qui lui se porte très bien. Vous êtes tous des consommateurs de pneumatiques, et à ce que ça, sur vos bagnoles, vous avez toujours 4 roues plus une roue de secours. Donc il faut bien vendre des pneus. Le vrai problème aujourd'hui n'est pas de savoir est-ce qu'on vend des pneus ou pas, c'est où est-ce qu'on les fabrique. Et dans cette logique-là, ils en sont arrivés maintenant à aller au bout du bout de la chaîne, c'est que le patron qui licencie, en plus maintenant il pourra licencier non seulement abusivement, mais nous on ne pourra plus jamais faire reconnaître que notre licenciement est un licenciement pour motif économique. Voilà. Voilà pourquoi les Bouygues sont aussi en tôle. Voilà pourquoi le 19-20 octobre à Amiens, nous allons être des dizaines de milliers, en tout cas je l'espère, puisque le lendemain de la condamnation, on a créé des comités de soutien, on a fait le tour de la France, plus aujourd'hui en Belgique, mais on a fait le tour de la France et on s'est rendu compte que partout, partout il y avait de la répression, partout dans les entreprises, ça faisait mal, partout on enfermait nos gamins qui prennent 6 mois de prison ferme, dont les parents ne savent même pas ce qui s'est passé, on leur dit bah vous verrez au parloir quand il sera derrière la prison. Voilà. On interdit les jeunes maintenant de manifester, c'est-à-dire qu'on leur dit vous êtes 18 mois à être à l'écart de la ville où se sont produits les faits. Et bien souvent les faits ne se sont jamais produits. Donc voilà, donc ce que j'étais venu vous dire, ce que je pense qu'il faut qu'on partage tous, c'est que il n'y a pas d'un côté 8 mecs de Bouygues dont je fais partie et puis le reste de la population. Je pense que la population, elle doit bien prendre conscience, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez pris conscience de quelque chose, que ces gouvernements ne pourraient pas se permettre de faire un quart de ce qu'ils font si on n'était pas en capacité d'être réellement motivés dans la rue. Parce qu'il y a des années quand même, qui ne sont pas très loin de nous, ils ne se seraient jamais permis d'emprisonner un syndicaliste ou un simple sympathisant. Jamais. Si aujourd'hui ils le font, c'est qu'ils pensent pouvoir le faire. Et je pense qu'on leur donne raison au quotidien. Parce que quand on appelle à des manifestations pour la loi travail, et qu'on se retrouve à 400 000 en France, et qu'à côté de ça, il y a des fachos qui appellent à des manifestations contre les migrants, et qui font plus de 2 millions, moi ça me pose des vrais problèmes de fond. Et je pense que là aussi, politiquement, on a un rôle important à jouer. Donnons à ceux qui ont la colère, l'espoir et la possibilité de l'exprimer dans la rue, non pas dans des urnes avec des bulletins d'extrême droite qui de toute façon feront que ceux qui voteront pour l'extrême droite seront les premières victimes de cette politique d'extrême droite. Voilà, tout ça est extrêmement lié. Et moi je dis, hein, on est au bord du fascisme. Sincèrement, ça fait peur mais c'est la vérité. Vous savez, moi la prison, ça me fait pas peur. Le problème n'est pas de savoir si je vais aller en prison ou pas. Le problème c'est que d'abord ça me ferait chier d'aller en prison alors que j'ai rien fait de mal. Premièrement. Et puis deuxièmement, je me dis que les prisons, elles ne devraient quand même pas être remplies de sympathisants ou de syndicalistes qui n'ont eu que pour seul délit, celui de combattre un système qui est quand même arrivé à bout de souffle et qui est en train de nous faire crever tout le monde. Voilà. Donc voilà ce que j'étais venu vous dire. Moi je compte en tout cas sur vous si vous le pouvez. Et je pense que ça peut s'organiser les 19 et 20 octobre à Amiens. Je pense que la solidarité c'est important. Vous êtes là aujourd'hui aussi dans un mouvement solidaire, une fête solidaire. Je suis venu aussi pour partager avec vous cet instant. Merci à vous de votre accueil, merci à mes camarades, merci à tout le monde. Merci beaucoup, merci.
Oh les jolis mots qui promettent le bonheur sur d'autres comètes ou d'autres biens plus terre à terre, des augmentations de salaire. Nous voilà choisis à la louche. Où je décide, à l'air louche. Et est-ce que les CV anonymes tueront le mal à la racine? Marre d'être une croix d'un beau case, la goutte qui fait déborder le vase. Disons les choses par leur nom, non seulement je vous dis non.
L'envie, j'ai du mal à faire, je suis docteur. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, je suis docteur. Je sais que c'est grave. L'envie,
j'ai pas le remède.
L'envie,
faut quelqu'un qui m'aide.
L'envie.
Sinon je sens que je vais gâcher le jeu.
C'est quoi ce monde qui promet du taf autour d'un calumet, qui fait du rêve avec le vide et des vieux qui n'ont plus de rides. À force de tout prolonger et
à quel âge on est âgé. Pressé qu'on est comme des pruneaux. Est-ce qu'on aura le dernier mot? Tout s'écoule à tous les étages. Et quand c'est pas dans les parages, il y a la vie des observateurs qui dit tout ça, c'est des rumeurs.
L'envie que j'ai de ma rage, docteur, est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, docteur, je sais que c'est grave. L'envie,
j'ai pas le remède.
L'envie,
faut quelqu'un qui m'aide.
L'envie,
sinon je sens que je vais gâcher le jeu.
Jusqu'à la crête, même la mort part en sucette. On gicle par la voie des airs, tous ces gens venus du désert. Comment les mettre tous dehors? Le kérosène vaut de l'or. Tant pis si on n'a plus le sable, on est trop autour de la table. C'est pas qu'on est les gars en pierre, on va pas nourrir la terre entière. Putain, c'est quoi ce raccourci? Je pars pas, je dis pas merci.
Oh, l'envie, j'ai de ma rage, je me sorte. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, docteur, je sais que c'est grave. L'envie,
j'ai pas le remède.
L'envie,
faut quelqu'un qui m'aide.
L'envie,
sinon je sens que je vais gâcher le jeu.
L'envie, j'ai de ma rage, docteur, est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, docteur.
C'est l'automne. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les oiseaux migrent vers des cieux plus cléments, dans le sillon des charters républicains. Les jours raccourcissent. Le chômage augmente. Les révisionnistes du FN soutiennent que l'été n'a jamais existé. Et près de 20% des gris débiles sont prêts à les croire. C'est l'automne. Les tubes de l'été rentrent chez eux, du pognon plein les fouilles. Achika chika 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 chiketa. Et les tubes de l'automne arrivent, des rêves de pognon plein la tête. Oula la la. C'est l'automne. Le salon de l'auto réveille le blaireau moyen de sa torpeur. La grille de rentrée de France 2 le rendort. Quant au programme du Parti Socialiste, il lui rappelle que la gauche est morte, il y a longtemps, d'un cancer de la droite. L'appendice du pape a enfin été libéré, mais tout espoir de retrouver son cerveau vivant a été abandonné. C'est l'automne. Les femmes afghanes rentrent à la maison. Les SDF sortent de l'anonymat pour mourir de froid en prime time. Bilalian bave déjà de bons sentiments, car les limaces sentent venir la pluie, c'est bien connu. C'est l'automne. Les licenciés s'amassent sur le trottoir. Nicole Nota jaunit et s'étiole depuis qu'elle a délocalisé son activité au CNPF. Et mon grand-père, qui a connu l'été 36, me dit qu'il n'y a plus de saison. C'est l'automne. Tombent les feuilles et les enfants de Gaza, un caillou dans la main, dans le vacarme des hélicoptères de combat. Le ciel se couvre et il y a un trou dans la couche d'ozone. Et un trou dans la sécu. Et un trou dans mon budget. Il y a des trous partout, mais le poinçonneur des lilas pointe au chômage. C'est l'automne. Les sans-papiers se ramassent à l'appel dans les couloirs des préfectures. Les flics mettent fin à leurs pauvres jours en se tapant la tête à grands coups d'annuaire. Quant aux militaires, l'idée de suicide ne les effleure même pas. D'ailleurs, aucune idée ne les effleure jamais. C'est l'automne. Les patrons patronnent. Les curés consolent. Les fachos font chier. les biens sociaux nous abusent. Les vaches nous affolent, les cons contaminent, et le CAC 40, je vous raconte pas. En gros, il n'y a que le marché qui marche, mais sur nos gueules. Bon ben, c'est l'automne quoi. Les chiffres sont mauvais, les perspectives sont ce qu'elles sont, la croissance doit revenir, la réforme doit être engagée, l'Europe est en marche, les critères convergent. Nous sommes au début du chemin, mais nous sommes sur le bon chemin. Ma sœur balbeur, ma tante n'en a toujours pas, et c'est celui qui le dit qu'à lui-même. Les experts sont formels. Enfin merde quoi, c'est l'automne. Je pense l'avoir suffisamment démontré. Et pourtant, il manque quelque chose pour compléter ce terne tableau automnal. Il y a un hic, un défaut majeur. C'est l'automne, certes, mais nous attendons toujours. Nous attendons toujours l'explosion sociale. Et comme le dit Majid,
c'est l'heure de le mettre, bordel de cul.
Et c'est sur Radio Campus, saucisse pois chiche.